C'est l'une des sagas politico-judiciaires les plus longues et les plus éloquentes de ces 40 dernières années, celle qui a conduit le couple Balkany, Isabelle et Patrick, à être condamnés à de la prison ferme et à une peine d'inéligibilité. Il y a près d'un an et demi, il s'agissait là de l'épilogue d'une carrière politique qui a mêlé popularité et clientélisme, malversations et victoires électorales, condamnations et sentiments de toute puissance. Bref, une carrière riche et mouvementée, racontée dans un documentaire diffusé ce soir sur France 5. Bonjour Félix Sagère.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire, La chute de la maison Balkany, nouvel épisode de la collection ou de la série C'était écrit. Qu'est-ce qui était écrit dans la saga Balkany dès son début à la fin des années 70?
Bon, en fait, c'est un peu l'angle et l'idée de ces documentaires, de cette collection, C'était écrit, c'est pas tellement de raconter que la vie des Balkany d'une façon chronologique, que leurs affaires, les différentes affaires qu'ils ont eues à travers les années, mais c'est d'expliquer un petit peu cette mécanique implacable en fait qui se retrouve dans l'habillage, dans la façon d'écrire, de se dire en fait. Je pense que ce que se disait un petit peu tout le monde depuis tant d'années, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas condamnés? Qu'est-ce qui fait qu'ils se maintiennent encore à la mairie de Levallois? Et en fait, c'est ça qu'on a essayé d'expliquer à travers ce film.
Est-ce que vous montrez, par exemple, c'est leur conception assez particulière de la politique, un investissement comme un autre? Par exemple, lorsqu'ils sont élus, lorsque Patrick Balkany est élu pour la première fois maire de Levallois-Perret en 83, il attend en quelque sorte, que montre votre documentaire, un retour sur investissement.
Oui, il y a une phrase qui est restée très célèbre, qui appartient un petit peu à la légende des Balkany, qu'a beaucoup raconté Jean-François Probst, qui n'est plus là aujourd'hui, qui est qu'Isabelle Balkany aurait déclaré le soir de l'élection à la mairie de Levallois en 1983, aujourd'hui il faut que ça rapporte. Sous-entendu, ils ont dépensé beaucoup d'argent. À l'époque, les campagnes, c'était de l'argent personnel qu'on mettait dans les campagnes politiques, et du coup, à l'époque, en 1983, les Hauts-de-Seine, c'était vraiment une machine à cash pour le RPR, et donc il y avait beaucoup d'argent qu'on pouvait se faire en politique.
Vous parlez de la maison Balkany dans le titre de votre documentaire. C'est quoi cette maison Balkany? Comment vous la définiriez?
La maison Balkany, bon, y a un petit clin d'œil à l'immobilier forcément là-dedans, mais la maison Balkany, c'est Patrick et Isabelle Balkany. C'est vraiment un couple. C'est un couple assez unique en politique. Ils sont deux, et dès le début, ils ont fait de la politique ensemble, et c'est un couple qui est extrêmement complémentaire dans leur parcours politique, dans leur vie également.
C'est un peu la tête et les jambes, ce que j'ai appris en voyant votre doc.
Exactement.
Ce que j'ignorais.
C'est une expression qui est très connue aussi quand on parle des Balkany, que n'aime pas beaucoup cette dénomination, mais voilà, c'est la tête et les jambes. La tête, c'est Isabelle Balkany, les jambes, c'est Patrick Balkany.
Ouais. Le couple, justement, pour bien comprendre la saga Balkany, il faut s'y intéresser. On est au milieu des années 70, naissance racontée par Karim Rissouli, c'est lui qui assure les commentaires du documentaire.
Patrick et Isabelle gravitent dans les mêmes milieux parisiens. Et en décembre 1975, c'est la rencontre. Ils ont 27 et 28 ans, un coup de foudre.
Trois semaines après, Patrick demande Isabelle Balkany en mariage et ils sont habités de la même ambition, c'est-à-dire réussir dans un secteur où la réussite est valorisée.
On vient d'entendre la voix du journaliste Julien Martin, auteur du livre Les Balkany. C'est pas que sa voix, il est interviewé dans votre doc. Le secteur qu'ils vont investir, ça a été la politique. Comment ont-ils choisi ce secteur, justement?
Un peu par hasard, en fait. Patrick et Isabelle Balkany, les deux sont de riches héritiers qui viennent du 16e arrondissement de Paris. Ils n'ont jamais eu de soucis dans la vie, dans leur jeunesse en tout cas. Et en fait, Patrick Balkany, lui, il était plutôt fêtard à l'époque. Il a été un petit peu acteur, il a fait du sport, il a fait différentes choses. Il a un peu profité de la vie. Isabelle Balkany, de son côté, c'était un petit peu différent. Elle était très douée à l'école. Elle a voulu sortir un petit peu de son milieu, de ce qui lui était destiné. Et elle a commencé par le journalisme, au journal Combat, qui appartenait à son oncle à l'époque, ouais. Avec Philippe Tesson, qui témoigne dans le film, oui. qui se souvient encore, qui l'a un petit peu formé en fait, au journalisme et à la politique d'ailleurs. On a peut-être un peu oublié que Philippe Tesson s'est présenté aux législatives à Saint-Germain-des-Prés, une aventure politique comme une autre. Et Isabelle Balkany était sa directrice de campagne. Donc c'est là qu'elle a pris goût à la politique. Et ensuite, elle a travaillé chez Europe 1. Ouais. Isabelle Balkany, à la com' d'Europe 1, entre 78 et 80 à peu près, si je me souviens bien.
Dans le film, il y a très peu d'images de Patrick Balkany sans Isabelle. Et inversement, pourquoi est-il si difficile de parler de l'un et pas de l'autre?
parce qu'ils sont toujours ensemble. Et la mairie de Levallois Perret depuis 1983, ça a été vraiment leur seconde maison. Ils y vivent, ils y mangent, ils ont une salle à manger. Donc en fait, ils vivent et ils travaillent ensemble, donc ils sont totalement inséparables.
Ils ont même, j'ai appris ça, ils ont même une salle à manger en sous-sol, ce qui est quand même le pire du confort quand même.
C'est un peu plus la salle à manger de Patrick que celle d'Isabelle. C'est juste sous le bureau de monsieur le maire, de madame la maire aujourd'hui. Et voilà, il y a un escalier qui descend au sous-sol et c'est décoré avec des boiseries, il y a des cigares, il y a des photos au mur de Patrick Balkany avec différents amis à lui, Nicolas Sarkozy bien sûr, Johnny Hallyday et d'autres personnalités. C'est vraiment un petit peu un bar privé.
Vous parlez au présent, mais maintenant ça a changé. La déco a peut-être été refaite.
La déco a été refaite. Je pense, j'ai demandé à y aller, mais on m'a pas laissé voir ça.
On ne vous a pas laissé filmer.
Non.
Le couple Balkany, c'est d'abord une histoire de fidélité, c'est également une histoire de trahison. Patrick Balkany avait trompé sa femme, on s'en souvient, au milieu des années 90, et vous revenez sur cet épisode peu glorieux de la fellation au 357 Magnum. Trahison sans conséquence sur sa carrière, ce qui n'est pas le cas d'une autre trahison, celle de Patrick Balkany contre l'un de ses plus proches collaborateurs, à l'encontre plutôt, Didier Schuller, directeur général de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Que s'est-il passé entre les deux hommes ?
En fait, la relation entre Didier Schuller et Patrick Balkany, c'est un peu une relation shakespearienne entre deux hommes. C'est quelque chose de très humain, finalement, qui va entraîner la chute véritable de Patrick et Isabelle Balkany. C'est vraiment cette trahison entre Didier Schuller qui a été un petit peu... On peut le qualifier de porte-valise, mais c'est pas que ça. Didier Schuller, lui, depuis les années 80, c'est lui qui a vraiment mis en place le système de fausses factures dans les HLM. C'est lui qui a organisé un petit peu toute cette collecte d'argent illégale par le RPR. Et Didier Schuller, il savait beaucoup de choses. Donc, son histoire, elle est un petit peu longue. Il lui arrive plein de choses. Mais finalement, Didier Schuller, on savait qu'il savait. Il y a beaucoup de journalistes qui se sont cassés les dents. Fabrice Arfi, Gérard Davé, Fabrice Lhomme, ça faisait plusieurs années qu'ils voulaient le faire parler. Et finalement, un jour, Didier Schuller décide de parler par vengeance envers Patrick Balkany.
Il a longtemps protégé son patron face à la justice. Il ne parle pas. On se souvient qu'il avait été exfiltré. Si je me souviens bien, c'était l'affaire des vrais faux passeports avec Charles Pasqua.
Exactement.
Il est condamné pour des malversations, mais pas Patrick Balkany. Et puis, quelques années plus tard, malheureusement, je suis obligé de résumer, vous verrez ça dans le documentaire ce soir, Didier Schuller espère en renvoi d'ascenseur. Patrick Balkany lui fait des promesses, mais les trahit. Et là, Didier Schuller se décide à parler.
Effectivement, j'ai accepté de faire travailler ma mémoire. Et non seulement ma mémoire, mais de ressortir un certain nombre de pièces judiciaires qui avaient été enterrées. C'est ça, l'histoire.
À un moment donné, Didier Schuller bascule. Ce qui nous dit, je vais vous dire ce que je n'ai jamais dit à personne. Il nous donne concrètement les clés de la fortune cachée des Balkany. Et ça, Balkany ne pouvait pas le prévoir. Il ne savait pas concrètement que Didier Schuller nous racontait tout pendant de longs mois. Il ne le savait pas.
C'est Gérard Davé qu'on vient d'entendre, journaliste au Monde et auteur du livre French Corruption avec Fabrice Lhomme. Ces révélations sont un tournant dans la saga Balkany.
Oui, c'est un vrai tournant. En fait, les deux journalistes du Monde, donc Gérard Davé et Fabrice Lhomme, obtiennent les confessions de Didier Schuller. Il y a des documents nouveaux, inédits, ils sortent en livre. Ils disent pas tout dans le livre, mais la justice comprend que Didier Schuller est peut-être prêt à parler, a envie de parler. Et à ce moment-là, le juge Renaud Van Ruymbeek, qui enquête sur plusieurs affaires, sur Sarkozy, sur les Balkany, il convoque Didier Schuller. Et Didier Schuller, il n'arrive pas les mains vides et il donne des documents essentiels pour lancer une grande enquête sur Patrick et Isabelle Balkany.
C'était écrit « La chute de la maison Balkany ». On n'a raconté que les prémices, la suite à suivre. On est avec Félix Ségère, j'arrive à le dire. Culture Média continue. En compagnie de Félix Ségère, il signe La chute de la maison Balkany, documentaire à voir ce soir à 20h50 sur France 5 dans la collection C'était écrit, documentaire produit par Caméra Subjective. Il y a une expression qui revient souvent dans votre documentaire, c'est le sentiment d'impunité. Le couple Balkany s'est longtemps cru intouchable, notamment à cause de son amitié ancienne avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur puis président de la République entre 2002 et 2012. C'est ce que pense l'un des anciens conseillers municipaux d'opposition à Levallois-Perret, le divers droite Arnaud de Courson.
2002-2007, ministre de l'Intérieur, même s'il y avait une petite intermède à l'économie. 2007-2012, président de la République. Et bien pendant ces 10 ans-là, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un inspecteur des impôts, il n'y a pas un flic, il n'y a pas un juge qui met le nez dans les affaires de Patrick Balkany. Je pense que il y a un côté intouchable et finalement, une petite collusion, on ne va pas chercher les puissants. Parce qu'on n'a pas envie de les prendre de pleine face.
Ça veut dire quoi concrètement, les prendre de pleine face ?
Ça veut dire plein de choses. Il y a beaucoup de sous-entendus. Enfin, quoique là, c'est dit assez directement pour une fois, parce qu'ils sont enfin condamnés, qu'on peut se permettre certaines choses qu'on ne pouvait pas dire avant ou qu'on ne fait que sous-entendre. Mais voilà, c'est...
Il y a une magistrate qui parle et qui raconte des choses assez étonnantes, quand même, d'étranges coïncidences qui lui sont arrivées après avoir enquêté sur les Balkany.
Oui, il y a une magistrate qui parle pour la première fois à visage découvert, justement. Il y a aussi l'ancien commandant de la brigade financière qui avait déjà enquêté sur les Balkany dès les années 90. Dès 1989, je crois, d'ailleurs, enfin, au début des années 90, lui, il avait déjà découvert des villas aux Antilles. Mmh. Et tous ces dossiers-là, ils ont disparu, ils ont été mis sous le tapis.
Et la magistrate qui enquête, tout d'un coup...
Elle enquête, elle rend son rapport et puis finalement son rapport donnera pas grand chose pour des raisons diverses et variées.
Mais surtout elle est cambriolée deux fois et sa voiture aussi, elle a eu des soucis avec sa voiture, elle a eu des soucis personnels.
Voilà,
elle dit est-ce une coïncidence, mais quatre fois de suite une coïncidence.
Voilà, elle est cambriolée deux fois dans son domicile, deux fois dans sa voiture, son domicile est mis sous protection policière. Donc c'était les années 90, c'était une autre époque, il y avait encore Charles Pasqua qui était là, c'était des anciennes méthodes.
Il y a une dimension importante également pour comprendre l'ascension puis la chute de la maison Balkany, c'est le clientélisme, pratique assumée par le couple. Exemple, lors d'un gala de fin d'année organisé pour les personnes âgées de Levallois, c'est Patrick Balkany, le maire, qui est sur scène et qui s'adresse aux personnes âgées.
Ces fêtes de fin d'année, c'est formidable. D'abord, vous êtes tous passés à la mairie pour prendre des petits colis, qui étaient ravissants, les petits colis. Jolis cadeaux. Oui. On est bien à Levallois. Tout le monde vous envie.
Ça fait plaisir aux personnes âgées qui ont le sentiment qu'on leur offre quelque chose et que Patrick Balkany leur offre quelque chose. Or, le colis, ils l'ont payé 10 fois avec leurs impôts.
C'est Anne-Eugénie Faure qui parle. Elle a été l'une des opposantes au couple Balkany à Levallois. Elle a été conseillère municipale socialiste. Qu'est-ce que dit cette approche clientéliste de la stratégie politique des Balkany?
Oui, le colis, c'était une vieille tradition communiste à Levallois, parce que c'était une ville communiste avant. Mais Patrick Balkany, il a doublé le colis. Et puis surtout, il y a toute une part de communication, voilà, en expliquant que Levallois, c'est eux. Tout leur appartient, donc ce qu'ils donnent, c'est comme s'ils donnaient leur argent personnel ou des propres cadeaux qu'ils avaient payés eux-mêmes à tous les habitants de Levallois. Et ça, c'est vraiment leur stratégie. On les traite de clientélisme, on les appelle clientélistes, mais eux, ils sont fiers de ça. Ils disent, si on est clientéliste, tant mieux, si le client est content, il vote pour nous. Et vraiment, ça a été ça dès le début, c'est-à-dire de vraiment cibler un électorat spécifique, les familles, les seniors, certaines personnes, pour pouvoir être réélus à chaque élection.
Je saute volontairement des étapes. Il y a eu un procès, il y a eu des mises en examen, et Patrick Balkany a été incarcéré à la prison de la santé à Paris, où il passe 5 mois. Il est finalement libéré pour des raisons de santé. Sa femme vient le chercher devant les caméras de très nombreux médias, ce qui donne lieu là à une scène absolument incroyable devant la porte d'entrée de la prison ou de sortie, quand Isabelle Balkany est au téléphone avec son mari.
Je suis devant la porte. Tu me vois à la télé ? Mon Dieu ! Quelle horreur ! C'est ridicule ! On n'est pas encore venu te chercher. Bah, j'arrive. J'arrive, attends. Mais donc, je viens vous voir.
On est ici une émission média. Quel rôle les médias ont joué dans la carrière des Balkany ?
Les médias ont joué un très grand rôle. En fait, c'est surtout à partir du moment où Nicolas Sarkozy devient président. Avant, les Balkany, on en parle assez peu. On les connaît finalement assez peu, alors que ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils sont en politique. Et à partir de 2007, c'est vraiment... voilà, ils sont de toutes les télés, ils ont leur marionnette au guignol. Ça devient des personnages pop, quelque part, plus que politique, parce qu'ils n'ont jamais un rôle très grand. Ils n'ont pas été ministres. Ce ne sont que des élus locaux de Levallois-Perret. Peut-être Patrick Balkany a été député, mais rien de plus.
Ils ont su servir des médias, Isabelle et Patrick Balkany. Enfin, pas toujours. Exemple, on est en 2014, c'est pendant la campagne municipale. Il y a de nouvelles affaires qui font surface. Il y a un journaliste de BFM TV qui interroge Patrick Balkany à ce sujet. Et voici ce qui se passe.
Je rentre dans la permanence. Il y a une bonne ambiance. Ça boit un petit peu de vin, ça mange des curlis. Voilà, on est en ambiance campagne. Au moment de sortir, je tombe nez à nez avec Patrick Balkany. Et là, du coup, j'en profite. J'allume la caméra et je lui tends le micro. Je lui pose les 2-3 questions sur le patrimoine. Et c'est à ce moment-là qu'il a dégoupillé.
Monsieur, j'ai fini de vous parler. Maintenant, vous pouvez sortir et quitter ma permanence.
Bravo ! Merci beaucoup. Isabelle m'accompagne en me disant aller plus loin, sentant probablement que son mari est en train de s'énerver plus que d'habitude.
Alors maintenant...
Putain, c'est vous, tirez-vous. Je la garde.
Je la garde
parce que vous nous faites chier.
Le sentiment pour un caméraman de se faire piquer sa caméra, c'est assez compliqué. Et puis par Patrick Balkany, c'est quelque chose d'assez irréel.
Il a confisqué la caméra. mais il ne l'a pas éteinte. Il la pose quelque part, vous allez dire où ? Que se passe-t-il ensuite ?
Oui, en fait, Patrick Balkany, à ce moment-là, c'est le début de son enquête. Il est très tendu, c'est les élections municipales, donc il y a un vrai enjeu. Et là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il arrache la caméra. Et le journaliste s'en va.
Mais racontez la suite, que devient la caméra ?
Patrick Balkany prend la caméra, il veut prendre la cassette, il veut l'éteindre, il veut se débarrasser des rushs. Et en fait, il part, mais la caméra tourne toujours. Il n'arrive pas à l'éteindre, il l'amène dans une remise. Une remise d'ailleurs, on voit les images, où il y a écrit des cartons, il y a écrit Nicolas Sarkozy dessus. On ne comprend pas, il y a Isabelle qui le suit, qui dit « Mais non Patrick, arrête, pourquoi tu fais ça ? Pas maintenant. » Et Patrick Balkany s'énerve, etc. Et finalement, il n'a jamais réussi à éteindre la caméra. Il a laissé la caméra tourner et BFM TV a diffusé le vendredi suivant un reportage où on voyait tout ça, c'était vraiment effarant.
Et on voit la manière dont il parle en off des journalistes en pensant que jamais ils ne seraient entendus. Or, ils ont été entendus. Et on le verra même dans votre doc ce soir. Cette histoire des Balkany est longue et complexe, pas facile à raconter. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée dans l'écriture de ce documentaire ?
Il y avait une matière cinématographique et dramaturgique qui était assez exceptionnelle. Leur vie, à la fois politique et personnelle, depuis plus de 35 ans, elle était immense. Il y a beaucoup d'archives, ils ont beaucoup parlé, on a beaucoup parlé d'eux, il y a beaucoup d'affaires juridiques également.
C'était difficile pour vous ? Est-ce que les langues se sont déliées désormais ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait encore une part d'omerta autour de ce sujet ?
Les langues se sont un peu déliées, je pense que c'était pour ça que j'ai eu envie de le faire aujourd'hui, parce que comme c'était jugé, on n'avait pas besoin de reprouver par A plus B les affaires judiciaires et toutes ces choses un petit peu complexes, mais on pouvait analyser un petit peu plus en détail.
Les Balkany, Isabelle et Patrick s'expriment de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas souhaité vous répondre. Ils ont donné un argument ?
Pas vraiment. J'ai eu Isabelle Balkany au téléphone qui au début était assez hostile. Finalement, on a discuté un peu, mais non, ils n'ont pas voulu participer au documentaire.
Leur argument était lequel ?
Leur argument était, il n'y avait pas tellement d'arguments, si ce n'est qu'ils avaient assez parlé et qu'ils n'avaient pas envie de s'exprimer dans un documentaire de cette longueur-là. Isabelle Balkany m'a même dit c'est 90 minutes, c'est même plus un documentaire, c'est un film, qu'est-ce que vous allez raconter ?
Dernier élément très récent que vous n'avez pas pu ajouter évidemment à votre documentaire, Isabelle Balkany s'est vue retirer sa Légion d'honneur. Décision publiée samedi dernier au Journal officiel. Merci d'avoir été avec nous, Félix Sagère.
Merci.
Je rappelle, la chute de la Maison Balkany, c'est ce soir à 20h50 sur France 5 dans la collection C'était écrit, documentaire produit par Caméra Subjective.